On a dans nos studios Marie-Jo de Solidarité avec les femmes en lutte et elle va nous parler de la rencontre des femmes sur la santé qui a eu lieu cet été à Amsterdam. Marie-Jo, tu peux peut-être expliquer.
J'ai passé là une semaine merveilleuse avec 500 autres femmes qui venaient de tous les pays. Il y avait des femmes qui venaient de 70 pays. Et il y en avait la moitié d'entre elles qui venaient du tiers-monde. Et elles se sont rencontrées sur le thème campagne de la, organisée par la campagne internationale pour l'avortement, la stérilisation et la contraception. Seulement, ce n'était pas femmes, ayez moins d'enfants, c'était les femmes décident. Et c'était une rencontre vraiment très intéressante où j'ai appris évidemment beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait un flot d'informations qui arrivait pendant toute la semaine. Alors, moi, j'ai envie de parler ici de ce qui m'a frappé et puis de ce que j'ai découvert moi, qui est évidemment partiel parce qu'il y avait beaucoup trop pour assimiler pour une seule personne. Alors, voilà.
Écoute, je crois que tu dois parler un peu plus de... Enfin, pour commencer, on écoute un peu de musique.
Ah, ça va pas comme ça. Je suis obligée de...
Amor del alma, vengo a cantar este golpe. Amor del alma que el amigo me mandó. Amor del alma, vengo a cantar este golpe. Amor del alma que el amigo me mandó. Amor del alma, pa' que mañana pasa. Amor del alma, y haga lo mismo que yo. Amor del alma, pa' que mañana pasa. Amor del alma, y haga lo mismo que yo. ¿Cuál es la flor de cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la mujer que pone
tu amor en tu parrandero?
¿Cuál es la mujer que pone
tu amor en tu parrandero?
Pero dale que dale
tu amor en tu parrandero.
Pero dale que dale
tu amor en tu parrandero.
Amor del alma de las quebradas del agua, amor del alma de los páramos del viento, amor del alma de las quebradas del agua, amor del alma de los páramos del viento, amor del alma y de una mujer ingrata, amor del alma y un mal agradecimiento, amor del alma y de una mujer ingrata, amor del alma y un mal agradecimiento. ¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la mujer que pone
tu amor en tu parrandero?
¿Cuál es la mujer que pone
tu amor en tu parrandero?
Pero dale que dale
tu amor en tu parrandero.
Pero dale que dale
tu amor en tu parrandero.
Amor del alma, mi mamá tiene la culpa. Amor del alma, de que yo sea parrandero. Amor del alma, mi mamá tiene la culpa. Amor del alma, de que yo sea parrandero. Amor del alma, si ella me lava los pies. Amor del alma, con aguardiente primero. Amor del alma, si ella me lava los pies. Amor del alma, con aguardiente primero. ¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la mujer que pone
tu amor en un parrandero?
¿Cuál es la mujer que pone
tu amor en un parrandero?
Pero dale que dale
tu amor en un parrandero.
Pero dale que dale
tu amor en un parrandero.
Amor del alma, yo no me caso con viuda. Amor del alma, y aunque se evita desea. Amor del alma, yo no me caso con viuda. Amor del alma, y aunque se evita desea. Amor del alma, porque mura que otra mansa. Amor del alma, y
¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la flor del cacao?
¿Cuál es la flor del romero?
¿Cuál es la mujer que pone
su amor en un parrandero?
¿Cuál es la mujer que pone
su amor en un parrandero?
Pero dale que dale
su amor en un parrandero.
Pero dale que dale
su amor en un parrandero.
Bon, alors je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette semaine.
À tout point.
Alors ça c'était Flore de Cacao. C'est une chanson de Soledad Bravo. Et c'est une femme de Colombie. Il y avait beaucoup de latino-américaines là-bas. Il y en avait pas mal, une cinquantaine, je pense.
Et c'est assez nouveau, en fait, que dans ces conférences de femmes, il y ait une partie importante de femmes du tiers-monde. Comment ça se fait qu'elles arrivent à venir maintenant ?
Ah ouais, ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, quand on pense que les femmes qui ont organisé ça, au départ, elles appelaient ça « Campagne internationale pour l'avortement, la stérilisation et la contraception », c'était il y a 10 ans en arrière, ça voulait dire le droit à l'avortement, le droit à la contraception, bon, dans le cadre des programmes comme nous on avait, c'est-à-dire on veut disposer librement de notre corps, puis il nous faut nos moyens pour ça. Mais évidemment qu'à ce moment-là, ça n'avait aucun écho dans le tiers-monde, ce type-là de revendication pure, parce que dans le tiers-monde, ben, il y avait, enfin au moins parmi les couches pauvres de la population, le problème du contrôle de population ne se pose pas comme ça au départ. Et au bout de quelques années de contact de ces milieux féministes, moi je crois que c'est venu pas mal des féministes occidentales au départ, une envie de contact. De même qu'il y avait des femmes qui avaient fait des études en Europe ou comme ça, et qui commençaient à s'intéresser aussi à certaines revendications en tant que femmes, et qui retournaient dans le pays. Je crois que ça c'est entré comme ça, le féminisme, quand même, par exemple en Amérique latine. C'est une sorte de circulation d'idées qui s'est passée via des études, via des voyages, via des intérêts. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, quoi ? Et à ce moment, disons, ce type-là d'échange a fait que les féministes qui revendiquaient la contraception et l'avortement se sont intéressées à ce que disaient les femmes du tiers-monde à ce sujet. Et qu'est-ce qu'elles disaient les femmes du tiers-monde ? Elles disaient, on veut effectivement la contraception, beaucoup veulent aussi l'avortement, mais on veut surtout et d'abord s'opposer aux politiques de population qui sont décidées par les gouvernements sur notre dos, au contrôle malthusien de la population qui consiste à dire on va supprimer des pauvres en diminuant les naissances et en forçant ou bien en contraignant certaines fois, ou bien en incitant d'autres fois, plus ou moins gentiment ou poliment, les femmes à avoir moins d'enfants, faites moins d'enfants. Alors, c'était vraiment ça le point fort de la conférence, c'était d'avoir un panorama à une échelle mondiale du type de contrainte qui est opérée sur les femmes, et avec finalement l'idée générale qui régnait, c'était que les gouvernants, ou ceux qui nous gouvernent, les hommes qui nous gouvernent, d'une façon générale sur toute la planète, ils trouvent que les pauvres doivent avoir moins d'enfants et les riches plus d'enfants. Alors c'est devenu complètement caricatural au moment où il y a une femme de Singapour qui est venue témoigner de la politique de population à Singapour, où cette chose que je dis là, elle est noire sur blanc écrite dans les lois et elle est dite officiellement par le gouvernement. Alors le gouvernement dit aux femmes pauvres, si vous vous faites stériliser après le deuxième enfant, parce qu'il y a une campagne énorme pour la stérilisation des femmes pauvres. Si vous acceptez ça, on va vous donner un appartement à Singapour, vous rendez compte. Et puis aux femmes universitaires, on leur dit, s'il vous plaît, mariez-vous. On les entraîne et on leur donne des gratifications si elles se marient et si elles ont beaucoup d'enfants, parce que les femmes universitaires ne se marient pas assez et ne font pas assez d'enfants. Alors on leur dit, par exemple, si vous faites votre troisième, votre quatrième enfant, il sera admis d'office dans les meilleures écoles. Voilà. Et on dit à la femme qui ne veut pas, à la femme pauvre, on lui dit, si vous arrivez à la clinique avec votre troisième enfant, attention, on n'est pas sûr qu'on pourra vous l'accoucher dans l'hôpital. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu le genre de panorama qu'on a pu avoir.
Mais j'aimerais revenir un peu sur qui était dans cette conférence. Tu as dit qu'il y avait énormément de femmes, je crois 500 femmes.
500 femmes.
Qui venaient donc du monde entier. Et c'était, est-ce que c'était des femmes de la base ? Donc, d'après ce que j'ai compris, ce n'était pas des femmes qui représentaient le gouvernement.
Alors, c'était des travailleuses de la santé, quand même, en grande partie. Donc, médecins, infirmières, ou bien... Alors, il y avait cet aspect-là, travailleuses de la santé, ou travailleuses sociales, quand même, dans des centres de femmes, dans des centres éducatifs, dans des centres de planning familial. Et puis, c'était aussi des militantes, hein. Il y en avait quand même pas mal, parce qu'on sent qu'il y a une force là, qui se dégage au niveau de la solidarité internationale entre les femmes. Et cette force, elle va aussi naître des militantes et des courants d'échange entre les militantes. Avec ces constatations que les problèmes sont les mêmes partout et qu'il y a vraiment quelque chose à faire très, très, très globalement. C'est apparu très fort, évidemment, lorsqu'on parle des médicaments. On parle évidemment des boîtes internationales de médicaments, on parle de l'industrie pharmaceutique internationale. Alors de l'autre côté, en face, nous, quoi, on doit aussi être international, il n'y a pas le choix. Alors à part justement donc les femmes qui étaient représentées, il y en avait de beaucoup de pays d'Amérique latine, il y avait des femmes d'Asie, pas mal, d'Inde, du Bangladesh, des Philippines, du Sri Lanka, et il y avait des japonaises. Bon, il n'y avait évidemment pas de femmes de la Chine. Puis au niveau des pays socialistes, alors il y avait une femme de Cuba, une femme du Nicaragua, enfin quelques femmes du Nicaragua. Et puis il y avait encore une Yougoslave, comme ça, très isolée, quasiment pas personne. Et puis une Algérienne exilée, qui critiquait son pays, dont on parlera plus tard. Donc ces femmes des pays socialistes, elles avaient un discours un petit peu plus délégué officiel, parce qu'évidemment que le mouvement des femmes, c'est quand même un mouvement de gauche, ce qui fait que lorsque les femmes arrivent des pays socialistes, elles arrivent avec un discours socialiste qui est le discours de leur gouvernement. Alors là, ça pose un petit peu des problèmes, parce que quelquefois, elles sont un peu gouvernementalistes, comme ça, sans beaucoup de nuances. Par exemple, la femme de Cuba, elle dit « à Cuba, ça va bien, la condition de la femme, ça va bien ». Elle est beaucoup moins critique que n'importe quel autre qui vient d'un gouvernement à qui elle s'identifie pas. Mais disons que dans l'ensemble, c'était tous les femmes de la base. Il y avait aussi la femme du Kenya qui faisait partie d'une agence gouvernementale. C'est pas beaucoup, quoi. C'est vraiment une petite minorité.
Et au niveau de l'argent, ça se passe comment?
C'est un énorme travail d'organisation. Alors, il y avait justement des femmes de Londres et d'Amsterdam, enfin de Hollande, qui s'étaient mises ensemble pour faire une coordination à ce niveau-là et pour lever des fonds. Elles ont passé 2 ans à lever des fonds, c'est un travail énorme. Alors bon, la solidarité hollandaise et britannique, un peu allemande, enfin, il y a des agences non gouvernementales de coopération qui commencent à s'intéresser à ce type de mouvement parce qu'elles savent que c'est ça la vraie formation du tiers-monde. C'est une formation dans une militance commune avec des objectifs et puis une interaction culturelle. C'est ça l'avenir de la formation pour le tiers-monde. C'est pas d'aller dire aux gens ce qu'ils doivent penser, quoi. On écoute un peu de musique.
Oui, écoutons un peu de musique.
Alors, c'est quoi? C'est toi qui l'as choisi?
Oui, mais je ne sais plus.
Dans le cas, nous n'avons eu aucun pouvoir.
Mais non, c'est la musique ici.
Là. On peut envoyer un petit peu de musique, là, pour se reposer.
C'est quoi ta tonne qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. C'est quoi ta tonne qui me revient comme le soleil tout le temps? Quand tu viens, c'est jamais pour longtemps. Pour chauffer mes
Harmonium, c'est un groupe que j'aime bien, c'est le groupe Harmonium, Les Cinq Saisons. C'est un groupe québécois qui, enfin, je trouve que c'est plein de vie, c'est plein de force, cette musique. Et puis c'est vrai qu'à Amsterdam, les sujets étaient lourds, parce que c'était toute la misère du monde, quoi, c'était la misère des femmes. Il y avait des témoignages qui étaient d'une violence et d'une dureté. Et puis en même temps, il y avait beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de vie. Et ça, j'ai bien aimé ce contraste-là. Parce que même si les choses qu'on racontait étaient énormes d'horreur parfois, il y avait des femmes pleines de courage et de force qui les racontaient, alors ça changeait tout. Alors j'ai juste un exemple, l'Afrique du Sud, par exemple. C'est vraiment... où on nous raconte que les femmes sont arrosées de pression pour être stérilisées, ou bien où le seul service médical qui marche dans les Bantoustans, ça consiste à faire prendre, enfin à piquer les femmes de dépôt Provera. C'est un produit dont on a beaucoup parlé, dont il a beaucoup été question à Amsterdam. C'est donc la piqûre contraceptive qui dure 3 mois ou 6 mois, et puis qui présente beaucoup d'effets secondaires, qui était interdite aux États-Unis pour cette raison, et qui est largement diffusée dans le tiers-monde. Alors là, il y avait une contestation là-dessus. On a aussi eu comme témoignage très lourd celui des femmes du Sri Lanka. Il y avait 2 femmes qui venaient directement des plantations de thé au Sri Lanka, c'est-à-dire la population tamoule dont il est question dans l'actualité suisse aussi. Et qui est donc, on va pas raconter toute l'histoire des Tamouls, mais c'est clair qu'au Sri Lanka, il y a une région avec des gens extrêmement pauvres, c'est donc la région des plantations, où les Tamouls, qui sont des ouvriers agricoles, vivent dans des conditions terribles et sont brimés en tant que peuple. Et alors, avec cette population-là, il y a des pressions. Au niveau de la contraception, c'est des pressions pour la stérilisation forcée. On peut dire vraiment que c'est des campagnes de stérilisation forcée. Alors ça, c'était évidemment dénoncé, parce que entre la stérilisation forcée et puis le travail idéologique qui consiste à forcer les femmes à faire moins d'enfants, bon, il y a un pas. Et puis il y a des nuances un petit peu qui varient d'un pays à l'autre, mais c'est quand même très dur, je trouve, à entendre tous ces témoignages-là. Et puis la forme que prenait, qu'a pris cette conférence, c'était la forme du tribunal. Alors bon, 10 minutes, un quart d'heure de temps de parole pour chaque pays, pour chaque témoignage. Et la plupart des témoignages étaient en anglais ou en espagnol, mais il y en a un qui était au français et qui m'a beaucoup plu. C'est celui d'une Algérienne. Alors j'ai pu l'enregistrer. Alors je vais vous le livrer là tout à l'heure, parce que j'ai bien aimé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz. Elle raconte d'abord qu'en Algérie, il y a eu deux phases de politique de population. Dans une première phase, juste après la guerre de libération, la loi nataliste coloniale est demeurée inchangée. Et les gens étaient encouragés à être féconds. Il n'y avait pratiquement pas de centre de planning familial, à part un, pendant 10 ans, sous couvert de recherche universitaire. Et puis, quand même, il y avait un problème, parce qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés, de grossesses non désirées. Mais dans la deuxième décade, au lieu de s'appuyer sur le socialisme, la révolution s'appuie plutôt sur l'islam, mais elle met en place une politique que cette femme, Marie-Aimée, qualifie de malthusienne, mais en tout cas une politique de limitation des naissances. Alors, il y a 500 cliniques de planning familial qui dispensent de l'information. C'est pas encore passé vraiment dans les faits. Enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de femmes qui sont pas touchées par ces campagnes. Mais enfin, c'est dans l'air. Il y a un changement de mentalité là-dessus. Et la conclusion de ce premier exposé de Marie-Aimée, c'est de dire, dans les deux cas, les choses nous ont été imposées, on n'a rien décidé. Et voilà comment elle continue.
Les choses nous ont été imposées. Je voudrais dire un mot à propos à la fois du socialisme, des traditions et de l'islam. Je crois que dans tous les cas, les idéologies sont utilisées. En particulier l'islam actuellement, puisqu'on vient de passer en mai une loi qui s'appelle le Code de la famille, dont je peux vous dire brièvement que cela fait des femmes algériennes des mineures perpétuelles. Elles doivent être données en mariage, elles n'ont aucun droit de se marier elles-mêmes. Nous n'avons aucun droit au divorce, la polygamie existe. C'est-à-dire le mari peut divorcer, mais nous ne pouvons pas divorcer. La polygamie est reconnue, la répudiation est reconnue, ce qui est un stade intermédiaire entre le mariage et le divorce qui laisse la femme hors d'état de pouvoir se remarier. Le droit au travail ne nous est pas reconnu et nous devons obtenir l'autorisation du mari ou du père pour pouvoir travailler. Enfin, ce code de la famille qui vient d'être passé récemment s'appuie en principe sur des principes islamiques, mais en fait, c'est simplement l'utilisation de la religion comme dans bien d'autres pays. Je voudrais attirer l'attention des camarades qui sont encore dans des mouvements de libération ou dans des phases révolutionnaires dans leur pays et dire clairement que tout le pouvoir que nous ne prenons pas pendant les phases révolutionnaires ne nous sont certainement pas donnés après au nom du socialisme, au nom de telle révolution. Qui devrait être discuté ici, c'est nos liens avec les pouvoirs populaires, quand ils existent. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'utilisation de la tradition, en particulier dans les pays ex-colonisés, c'est-à-dire où nous sommes spécialement vulnérables aux idéologies qui nous permettent d'exprimer nos différences avec l'Occident, que nous revendiquons. Je crois qu'il faut faire référence à des choses qui ont été appelées en Algérie « retour à nos valeurs nationales », ou bien dans d'autres pays africains, la négritude, ou sous tout autre nom. Je crois que ce sont des idéologies qui permettent simplement d'exploiter les populations, et en particulier les femmes, qui ne nous laissent aucun droit de savoir ce que nous voulons actuellement. Ce n'est pas toute la tradition, toutes les traditions qui sont retenues, mais simplement celles qui servent la classe dominante actuellement. Ce qui me paraît important, c'est que dans les discours de plusieurs mouvements de libération, on trouve encore les femmes africaines veulent beaucoup d'enfants par rapport à les femmes occidentales n'en veulent que deux. Je ne sais pas, et il faudrait discuter, je ne sais pas si les femmes africaines, qu'est-ce que c'est que les femmes africaines veulent actuellement beaucoup d'enfants dans une situation de sous-prolétariat urbain, de changement de la famille étendue vers la famille nucléaire monogamique et tout un tas de changements de ce genre qui font de la maternité une chose différente de ce qu'elle était. Donc voilà aussi une critique des traditions qui j'espère sera discutée. J'ai terminé, je voudrais faire une annonce possible. Nous avons eu récemment contact avec un groupe indien. Il y a une femme de 24 ans qui traîne en justice l'État indien. Elle vit dans une région à majorité musulmane et donc sous loi coranique. Elle traîne en justice l'État indien pour contradiction entre la loi sous laquelle on l'a fait vivre, la loi coranique, et les principes affirmés dans la constitution indienne. C'est ce qui pourrait très bien se passer actuellement en Algérie avec le code de la famille et la constitution. La constitution nous garantit des droits égaux qui sont ensuite déniés par le code de la famille. Nous allons démarrer un mouvement commun avec certaines minorités indiennes, certaines minorités musulmanes en Inde. Je voudrais que les femmes qui sont ici et qui vivent sous loi musulmane, que ce soit dans un État musulman ou en tant que minorité dans un autre État, nous rejoignent demain au moment du déjeuner, de façon à ce que nous fassions un appel commun et que nous démarrions un comité commun, à la fois d'information et d'aide.
Thank you.
moment, vous avez donc entendu cette Marie-Aimée, cette femme algérienne. Elle est exilée d'Algérie parce qu'elle était l'objet de trop de pression. Elle a 4 enfants. Elle a eu une activité féministe importante en Algérie. Elles se sont beaucoup bagarrées contre ce nouveau code de la famille avec des copines. Et elle se sentait pas en sécurité dans ce pays, quoi. Et alors elle va démarrer ce comité de femmes sous la loi islamique. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis je trouve que ça montre assez bien donc elle. Enfin, moi, elle m'a vraiment donné une leçon de solidarité internationale. Elle voit très clair. Elle pense que la solidarité des femmes au niveau international, c'est extrêmement important, qu'il y a des quantités de pays où le soutien extérieur, le fait qu'il puisse y avoir des informations qui passent dans la presse sur des choses qui se passent sur le pays, comme un procès ou comme une atteinte aux droits des femmes dans un coin ou dans un autre, c'est très important que la plupart des gouvernements trouvent suffisamment important pour, par exemple, reculer ou... Oh.